VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour et bienvenue, le monde aujourd'hui, édition du vendredi 4 août 2017, en direct de Washington. Jean-Roger Billon et Anne Alberson, pour commencer, les titres.
Élection présidentielle aujourd'hui au Rwanda. Paul Kagame est bien parti pour un troisième mandat de 7 ans, selon les observateurs.
Au Togo, l'opposition a participé hier à une marche à Lomé pour exiger des réformes constitutionnelles.
Les Mauritaniens votent samedi pour un référendum constitutionnel controversé.
Au Niger, le président Mahamadou Issoufou s'inquiète de la démographie galopante dans son pays.
Ici, aux États-Unis, un grand jury a été constitué par le procureur spécial Robert Mueller dans le cadre de son enquête sur l'ingérence russe dans la présidentielle de 2016.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal.
Les Rwandais ont commencé à voter ce matin pour élire leur leader pour les 7 prochaines années. Mais cette présidentielle est qualifiée de sans enjeu avec 2 challengers qui restent moins connus que le président sortant, Paul Kagame, l'homme fort du Rwanda depuis 2 décennies. De Kigali, la capitale, Charlie Kasereka.
Élection sans enjeu. Depuis très longtemps, le président sortant Paul Kagame prépare le terrain. Aujourd'hui, il est rassuré du renouvellement de son mandat pour les 7 prochaines années. Tout d'abord, il a pris le soin d'empêcher plusieurs conquérants d'État de se présenter pour les élections de 2010. Puis, récemment, c'est la candidate Diane Rwigara, rentrée récemment au pays pour cette élection, malheureusement disqualifiée par la Commission électorale nationale. Il fallait réussir à recueillir 600 parrainages des citoyens. La commission est à la seule à juger de la validité d'un parrainage, tout revient à l'avantage du chairman Paul Kagame. Autre chose à signaler, les partis au pouvoir s'est accaparé des médias publics, avec aussi la quasi-totalité des institutions du pays gérées par les partisans du Front patriotique rwandais depuis plus de 2 décennies. Néanmoins, le seul enjeu pour cette élection serait tout simplement la comparaison des pourcentages avec lesquels sera élu ou réélu le président par rapport aux 2 échéances passées de 2003 et de 2010 où Paul Kagame l'avait remporté successivement avec 95 et 93% des voix. Charlie Kasereka depuis Kigali pour VOA Afrique.
À quelques jours des élections générales de mardi, des milliers de Kenyans quittent les villes soit par peur de violence, soit pour aller voter dans leur village d'origine. Abdourahmane Dia.
Je vais aller dans mon village et je compte y rester jusqu'à la proclamation des résultats. Nous nous sentons plus en sécurité chez nous. Les propos de cet employé d'une imprimerie de Nairobi qui amène toute sa famille avec lui traduisent l'état d'esprit dans la capitale kényane à 5 jours du scrutin. Des milliers de personnes ont envahi les gares routières à destination des villages. Certains y vont pour voter, mais beaucoup avouent leur crainte de violence post-électorale comme celle de 2007-2008. Des scènes de départ en masse sont également notées à Mombasa, la grande ville côtière du sud. Le gouvernement reconnaît que beaucoup de Kenyans ont peur, mais assure que plus de 150 000 membres des forces de sécurité seront déployés. L'opposition soupçonne le pouvoir de vouloir tricher, une accusation rejetée par la coalition gouvernementale. 8 candidats sont en lice pour l'élection présidentielle, dont les plus en vue sont le président sortant Uhuru Kenyatta et son rival de toujours Raila Odinga.
Au Togo, l'opposition a participé hier à une marche à Lomé pour exiger des réformes constitutionnelles limitant le nombre des mandats présidentiels et pour réclamer une modification du mode de scrutin. Des détails avec John Lyndon.
À l'appel de combat pour l'alternance politique qui avait comme chef de file Jean-Pierre Fabre et Mme Brigitte Adjamogbog-Johnson, des manifestants ont défilé dans les rues de Lomé scandant des slogans hostiles au pouvoir. Nous sommes sortis pour demander au régime de faire les réformes comme les Togolais le souhaitent, une limitation de mandat présidentiel et un scrutin à 2 tours pour les élections présidentielles et législatives, a déclaré Mme Adjamogbog-Johnson. Selon la constitution togolaise, le nombre de mandats présidentiels n'est pas limité. L'opposition réclame depuis 10 ans que la constitution, modifiée en 2002, soit révisée, notamment afin d'y réintroduire une limitation de mandat. Le président Faure Gnassingbé a succédé à son père en 2005 et a été réélu en 2010 et en 2015 lors de scrutins très contestés par l'opposition.
Les Mauritaniens votent samedi pour un référendum constitutionnel controversé prévoyant notamment la suppression du Sénat dans un climat alourdi par des accusations réciproques entre le président Mohamed Ould Abdelaziz et des sénateurs frondeurs et par l'appel au boycott de l'opposition radicale. La campagne émaillée de tensions, voire de violences, lors de rassemblements de l'opposition radicale engagés dans un boycott actif du scrutin s'est achevée jeudi avec un ultime meeting du chef de l'État. Quelques 1,4 million de Mauritaniens sont appelés aux urnes de 7h à 19h GMT, les résultats étant attendus en début de semaine prochaine.
Au Niger, 3 policiers ont été retrouvés morts en plein désert après s'être égarés avec leur véhicule. Ils tentaient de se rendre à un poste de contrôle à la frontière avec l'Algérie, a indiqué jeudi à l'AFP une source sécuritaire. En juin 2016, 34 migrants, dont 20 enfants, avaient été retrouvés morts dans le désert en tentant de se rendre en Algérie voisine, devenue une destination privilégiée des migrants subsahariens.
Et toujours au Niger, le président Mamadou Issoufou s'est inquiété de la démographie galopante dans son pays. Le Niger détient le plus fort taux de natalité au monde, avec au moins 7 enfants par femme. Solange Niamoulissa.
À l'occasion du 57e anniversaire de l'indépendance du Niger, le président a déclaré qu'au rythme actuel, la population de son pays va doubler en moins de 18 ans et va atteindre plus de 40 millions en 2035. Selon les statistiques, la croissance démographique du Niger, 3,9% par an, est l'une des plus fortes au monde. Le pays, abonné aux sécheresses et aux crises alimentaires, ne pourra pas faire face à un tel poids démographique. Monsieur Issoufou a prévenu que si les Nigériens n'arrivent pas à éduquer, former, soigner leur jeunesse et offrir des opportunités d'emploi, la population sera un handicap, une menace pour la cohésion sociale. Son gouvernement mise sur la fin du mariage et naissance précoce, la scolarisation et la formation des jeunes filles pour faire baisser le taux de natalité. D'après l'UNICEF, 30% des filles nigériennes sont mariées avant l'âge de 15 ans et 75% avant 18 ans. Le taux de contraception est de 12% selon le ministère de la Population. Le Niger tente depuis plusieurs décennies de maîtriser la fécondité galopante, ce qui provoque la colère des islamistes qui assimilent la contraception à une œuvre satanique de l'Occident.
Le président du Soudan, Omar el-Béchir, sous le coup d'un mandat d'arrêt international, est arrivé jeudi soir au Maroc pour une visite privée qui suscite l'indignation de défenseurs des droits de l'homme au royaume. Ces derniers ont adressé début août une pétition au chef du gouvernement marocain pour protester contre cette visite et demander son annulation. Le président soudanais est visé par 2 mandats d'arrêt internationaux émis par la Cour pénale internationale en 2009 et 2010 pour génocide, crimes contre l'humanité et crimes de guerre commis au Darfour, province de l'ouest du Soudan, en proie depuis 2003 à une guerre civile qui a fait 330 000 morts selon l'ONU.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président américain Donald Trump a de nouveau qualifié de fabrication totale les nouvelles sur les allégations de liens entre sa campagne électorale en 2016 et la Russie. Elles ne servent qu'à réconforter, dit-il, ses adversaires qui ont perdu la présidentielle de l'année dernière. C'est ce qu'il a déclaré dans un discours marqué par le défi hier soir à Huntington, en Virginie-Occidentale. Le Wall Street Journal avait révélé auparavant que le procureur spécial Robert Mueller avait constitué un grand jury, accélérant ainsi son enquête sur l'ingérence russe dans la présidentielle américaine remportée par M. Trump face à sa rivale démocrate Hillary Clinton. M. Trump a dit souhaiter que les conclusions de cette enquête soient vraiment honnêtes.
Entre-temps, les relations entre Washington et Moscou continuent de se dégrader. Le président Trump juge très dangereux l'état de ses relations américano-russes et en rejette la responsabilité sur le Congrès qui vient de durcir les sanctions. Le point avec Anastasie Tudiech.
Nos relations avec la Russie sont à un niveau historiquement bas et très dangereux, a tweeté Donald Trump. La Maison-Blanche n'a pu que prendre acte de cette nouvelle détérioration des liens, déjà très tendue malgré l'arrivée au pouvoir d'une administration a priori favorable au Kremlin. Les Russes ont riposté, décidant d'une réduction drastique du personnel diplomatique américain sur leur territoire. Ils ont à nouveau réagi durement après la promulgation par le président américain mercredi de nouvelles sanctions adoptées à une majorité écrasante par les parlementaires américains pour punir Moscou pour son ingérence dans l'élection présidentielle aux États-Unis ou son rôle en Ukraine. C'est une déclaration de guerre économique totale contre la Russie qui marque la fin des espoirs russes pour une amélioration des relations, a affirmé mercredi soir le Premier ministre Dmitri Medvedev, se moquant au passage de la faiblesse totale de la Maison-Blanche face au Congrès.
Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, effectuera entre les 28 et 30 août sa première visite en Israël et dans les territoires palestiniens comme patron des Nations Unies, a-t-on appris jeudi de sources diplomatiques. Antonio Guterres devrait également se rendre dans la bande de Gaza où l'ONU a un programme d'aide important pour la population palestinienne. Les relations restent tendues entre Israël et l'ONU qui dénoncent régulièrement l'extension de colonies israéliennes qualifiées d'illégales.
Au Venezuela, le président Nicolas Maduro doit inaugurer aujourd'hui une assemblée constituante qui lui est tout acquise au milieu de polémiques sur sa légitimité et des contestations de l'opposition qui devait manifester à Caracas, faisant craindre de nouvelles violences. Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
À présent, la Minute Éco avec Anastasie Toudièche.
La deuxième édition de la semaine des activités minières d'Afrique de l'Ouest, le SAMAO 2017, se tiendra du 28 au 30 septembre prochain à Ouagadougou. Le thème, quelle stratégie pour une meilleure intégration du secteur minier aux économies africaines? Le pays projette, grâce à ses réformes dans le domaine des mines, de faire passer la contribution du dit secteur au PIB de 7,9% en 2015 à 10,2% en 2020. L'activité minière a connu un réel essor au Burkina Faso depuis 2003, au point de faire de l'or le premier produit d'exportation devant le coton depuis 2009. Les échanges commerciaux entre la Chine et l'Afrique sont en hausse. Au premier semestre 2017, les échanges se sont établis à plus de 85,3 milliards de dollars, une hausse de 19% en glissement annuel, selon des chiffres officiels rendus publics par les dirigeants chinois. La dynamique est principalement tirée par les équipements maritimes, ferroviaires et aéronautiques. La Banque africaine de développement envisage d'accorder un prêt de 1,2 milliard de dollars à la Côte d'Ivoire et au Ghana pour les aider à renforcer la filière cacao, rapporte l'agence Reuters. Pour rappel, malgré leur rôle dominant dans l'approvisionnement mondial du cacao, 60% du tonnage global, le Ghana et la Côte d'Ivoire ont été pris au dépourvu par la baisse du prix mondial de la matière première depuis juillet 2016.
On retrouve pour la page des sports Nicolas Pineau, du football pour commencer. C'est fait, Neymar officiellement parisien.
Et oui, l'attaquant brésilien a signé enfin son contrat de 5 ans avec le Paris Saint-Germain. Le départ du FC Barcelone est donc acté au terme d'une journée de suspense. Jeudi matin, Neymar et ses avocats ont payé directement au club les 222 millions d'euros de clause libératoire prévue dans son contrat, selon un communiqué du Barça. Les joueurs et ses proches sont arrivés jeudi dans la soirée et le joueur a signé son contrat mirobolant cette nuit avec le club parisien. Aux 222 millions d'euros, il faudra ajouter son salaire annuel net d'environ 30 millions d'euros, une somme qui sera majorée de 20 millions d'euros de charges sociales et patronales. Le Paris Saint-Germain espère toujours présenter le joueur ce week-end pour la reprise de la Ligue 1.
Le jour de la visite du président de la Confédération de football, au Burkina Faso.
Le président Hamad est arrivé hier au Burkina pour une visite de 3 jours. Au menu, une rencontre avec le comité exécutif de la Fédération Burkinabé de football. Écoutons Sita Sangaré, le président de cette Fédération Burkinabé de football.
Le président Hamad aura l'occasion d'exposer cette nouvelle vision du football africain à notre comité exécutif. Et je pense que les membres fédéraux ne manqueront pas à leur tour de poser quelques questions au président de la CAF.
Peut-on analyser cette visite comme étant un signe de caution à la nouvelle équipe dirigeante de la FBF?
C'est vraiment un non-sens. Ceux qui avancent cette thèse, vraiment, ils se tombent lourdement. On a nullement besoin d'une quelconque caution venant d'où que ce soit. Le comité exécutif a été légitimement élu à une très large majorité.
Sita Sangaré, président de la FBF, joint par Yacouba Ouedraogo pour VOA Afrique.
Nouvel abandon avant les championnats du monde d'athlétisme de Londres.
Le sprinteur canadien André De Grasse, touché aux ischio-jambiers, a déclaré forfait pour les mondiaux 2017 qui débutent ce vendredi dans la capitale britannique. Annonce de la Fédération canadienne, considéré comme un potentiel successeur du Usain Bolt, futur retraité à l'issue de ces mondiaux. De Grasse était un sérieux prétendant au titre sur les deux distances du sprint, 100 et 200 mètres. Cette année, De Grasse avait notamment signé un prodigieux 9 secondes et 69 centièmes sur 100 mètres. C'était le 18 juin à Stockholm, avec toutefois un vent trop favorable pour être homologué.
Page de sport signée Nicolas Pineau.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Jean-Roger Billon. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Rwanda pour commencer, malgré les pronostics donnant gagnant Paul Kagame à la présidentielle de ce vendredi, le leader du parti vert affirme croire à l'avenir de la démocratie au Rwanda. Franck Habineza, l'un des trois candidats en lice et dont le parti d'opposition a été autorisé il y a 4 ans, dit vouloir un changement notoire grâce à la participation des citoyens qu'il compte impliquer dans la gestion du pays s'il venait à remporter la présidentielle. Au micro de Charlie Kasereka, notre envoyé spécial à Kigali, Franck Habineza.
Et quelle aujourd'hui est la force de ces partis politiques qui n'a eu l'autorisation de fonctionner il y a seulement 4 ans et qui fait face à un candidat très populaire?
Le Parti démocratique veut devenir un grand parti, mais on a commencé en 2009. C'était difficile pour notre parti. On a rencontré beaucoup de problèmes, beaucoup d'emprisonnements. Moi aussi, j'étais obligé d'aller en exil en Suède, qui a resté là-bas pour 2 ans. Nous avons pour maintenant de 2 millions de membres. Et maintenant, c'est notre première élection.
Le Parti démocratique vert s'est heurté à des obstacles pendant la campagne électorale. Même des espaces publics étaient d'avance occupés par les partis au pouvoir, sans aussi oublier les moyens financiers.
Les 4 premiers jours, c'était difficile parce que les autorités locales et nous, ils ont refusé les papiers de venir. Mais aussi, ils ont refusé les endroits et ils nous ont envoyé à le cimetière. Mais aussi, nous n'avons pas les mêmes moyens de financement comme les partis au pouvoir. Les partis au pouvoir étaient au pouvoir depuis 23 ans.
Habineza a un projet de société qu'il compte mettre en place malgré les peu de chances qu'il a pour être élu face à Kagame.
On va aussi faire un tribunal spécial pour voir si c'est possible de libérer les prisonniers politiques. On va aussi fermer tous les prisons illégales au Rwanda. On va faire beaucoup de choses pour libérer les peuples rwandais.
Les votes, c'est pour ce vendredi 4 août. Les partis verts souhaitent une élection libre et transparente, sinon la justice va trancher. Plus de 500 observateurs de ces partis seront envoyés dans différents districts et villes du Rwanda.
Oui, nous disons que si les élections passent au milieu de free and fair, on va accepter les résultats. Mais si il y a des choses qui n'est pas transparentes, on ne peut pas accepter. On peut aller au tribunal. Nous sommes dans le processus d'envoyer notre observateur de parti dans les districts pour observer les élections.
Première fois au Rwanda, un parti d'opposition participe à une élection. Avec cette autorisation suivie par la validation de sa candidature, Franck pense que c'est le début d'un processus démocratique ici au Rwanda.
Oui, la démocratie, c'est un processus. Ce n'est pas un événement. Et tout ça, même aussi les élections, est signe de la démocratie. On a fait tout pour être candidat, l'objectif démocratique a commencé au Rwanda.
Quelques 6,9 millions de Rwandais sont appelés aux urnes ce vendredi 4 août pour une élection présidentielle promise au président sortant, grand favori Paul Kagame, qui dirige le Rwanda depuis plus de 2 décennies. Charlie Kasereka depuis Kigali pour la VOA Afrique.
VOA Afrique à Kigali au Rwanda sur 104.3, 24 heures sur 24.
Les législatives au Sénégal, la coalition présidentielle a été déclarée victorieuse à Dakar après 3 jours d'attente et une interminable guerre de chiffres. Le scrutin a ainsi permis au pouvoir de reconquérir le bastion électoral le plus important du pays. Avec cette défaite, Khalifa Sall, le maire de Dakar, perd pour la première fois son leadership dans la capitale. Ses partisans sont quant à eux convaincus que les résultats ont été, je cite, « biaisé par le pouvoir avec la complicité de l'administration territoriale ». Le point avec notre correspondant Seydina Abagay.
La coalition Mankotaha au Sénégal dénonce vigoureusement la manipulation des suffrages par le régime. Pour Moussa Taye, conseiller politique du maire de Dakar, il n'est pas question que leur coalition accepte cette conspiration.
Au niveau de Passé Assani, il y a eu manipulation de procès-verbaux. Hier, la CEDEAO de Dakar a fait convoquer tous les représentants de vote pour leur demander de signer de nouveaux PV. C'est flagrant ce qui s'est passé à Dakar. Donc ils ont maquillé des chiffres. Ces résultats sont sortis hier à 5h du matin, ou ce matin même. C'est qu'il y a quand même une première au Sénégal, sinon c'est que les résultats des autres depuis 2 jours.
Alioune Badara Diouf, député et mandataire de Benno Bokou Yakar, affirme que la commission de recensement des votes a procédé au dépouillement en présence de toutes les parties prenantes.
Contestation dans la salle, il n'y en a pas. Parce que lors du dépouillement, du début à la fin, depuis le dimanche, il n'y a pas eu de contestation de chiffres. Donc tout le monde est d'accord. Les procès-verbaux, n'est-ce pas, sont pratiquement identiques. Que ce soit les coalitions, la Sénat, n'est-ce pas, et l'administration, ils ont détenu pratiquement les mêmes chiffres. Donc par rapport à ça, on n'a pas de problème. Dakar compte aujourd'hui 19 communes. Et Benno Boko Yakar a pu gagner les 12 communes.
Ces allégations sont réfutées par Moussa Taï, qui indique que la coalition Manko Tahou Sénégal compte utiliser tous les recours possibles pour avoir gain de cause.
Naturellement, la coalition Manko Tahou Sénégal réfute ces résultats-là. Nous ne les reconnaissons pas parce que nous pensons qu'ils sont truqués. C'est une faute de la coalition Benno Boko Yakar. Et nous allons utiliser toutes les voies de recours possibles. Non seulement nous allons attaquer la décision au niveau de la Cour d'appel, et même demain au niveau du Conseil constitutionnel, mais également politiquement nous prendrons toutes nos dispositions pour nous opposer à cette forfaiture.
Après plusieurs jours d'attente, les résultats des élections législatives du 30 juillet 2017 ont consacré la victoire de la coalition présidentielle dans 42 des 45 départements que compte le pays. À Dakar, l'opposition fidèle au maire de la capitale conteste les chiffres et accuse le pouvoir de hold-up électoral. Les partisans de Khalifa Sall annoncent une bataille devant les hautes juridictions sénégalaises. Sedina Abangay, à Dakar, pour VOA Afrique.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24 heures sur 24.
En République du Congo, les agents du centre hospitalier universitaire de Brazzaville poursuivent leur grève illimitée avec un service minimum. De nombreux patients sont sans assistance médicale. Le personnel de l'hôpital réclame 3 mois de salaire impayé et des avantages sociaux. Selon les syndicats, aucune suite n'a été donnée jusqu'à présent à leur demande. Notre correspondant Ngoula Ngoussou s'est rendu sur place au CHU de Brazzaville.
Ce triste spectacle peut devenir le quotidien au CHU de Brazzaville si on y prend garde. Depuis le 1er août, les agents du plus grand établissement hospitalier du Congo observent une grève pour réclamer 3 mois de salaire impayé.
Non, aujourd'hui on ne reçoit pas. Aujourd'hui on ne reçoit pas, c'est fermé. Parce que nous sommes là, debout là, bon, comme il n'y a pas de salaire, nous sommes en grève donc...
C'est fermé ?
Dans les sombres couloirs du CHU, quelques rares silhouettes en blouse blanche, des bureaux déserts, le service des urgences fermé. Même au bloc d'accouchement, le personnel n'est pas disponible. Les agents qui arrivent au lieu du travail font du service minimum.
Quand même, on a fait le service minimum. Donc, il n'y a pas assez de gens. Parce qu'il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de personnel qui ne sont pas venus. Donc, on est au nombre de 2 par équipe dans les services. Donc, c'est un peu ça. Mais il y a tout le travail. Beaucoup de malades dans les services. Mais il y a 2 par équipe.
Et les malades, eux, ne savent plus à quel saint se vouer. Cette femme explique en Lingala que les malades décèdent dans la nuit, faute d'assistance médicale. Arrivé sur un fauteuil roulant, un autre malade est venu enlever le plâtre de son pied, mais personne pour le recevoir. Il est tout triste sur le perron de l'hôpital.
Je suis perdu, désespéré, parce que je dois reprendre le boulot lundi prochain. Et on ne sait pas quand est-ce que va finir leur grève. On attend. Je suis pris en otage, carrément. Je sais pas qu'est-ce qu'il faut. Bon, là, on m'a dit d'attendre carrément la fin de la grève. C'est vraiment malheureux.
Le responsable syndical des médecins du CHU, Dr Albert Ngatse Oko, revient sur les revendications des travailleurs.
Non, rien d'autre que le salaire. Bon, je crois que le pays connaît certainement des difficultés au niveau des finances, si bien que les travailleurs ont déjà un certain nombre de mois sans être payés et ça fait quand même coincer. C'est pour cela qu'ils sont excités, énervés. Essayer de maintenir sans pouvoir le contenir. Évidemment, on est arrivé à la date butoir.
Sur les 3 mois de salaire dus, les agents sont prêts à en accepter 2 avant de reprendre le service. Ngoela Ngoussou, Brazzaville, VOA Afrique.
Vous êtes sur VOA Afrique à Brazzaville, sur le 101.9 FM.
Au Cameroun, les citoyens se mobilisent pour soutenir l'effort de guerre contre Boko Haram en donnant leur sang en faveur de nombreux soldats blessés. Mais selon les responsables de la santé, les banques de sang continuent de connaître des pénuries. Reportage Moki Edwin Kindeka, récit Lionel Gaïma.
Des centaines de personnes sont rassemblées dans la cour de la communauté urbaine de Yaoundé. Elles veulent donner du sang pour les soldats blessés dans les combats contre Boko Haram. Anatole Bihinam, 50 ans, attend de subir un test pour déterminer s'il peut être donneur.
Nous le devons beaucoup de respect et beaucoup d'encouragement parce que nous voyons ça à travers la télé ou bien d'autres documentaires faits, mais nous voyons bien que ces gars-là sont dans un front vraiment front. Je ne connais pas si je suis un bon donneur ou un mauvais donneur parce que je crois qu'il y a des tests qui se font et qu'on voit le bon ou le mauvais sang. Mais si il arrivait qu'on trouve que moi j'ai du bon sang et que je peux donner, donc ça je n'hésiterai pas pour donner une petite goutte de sang à celui qui sauve des vies. Mais écoutez.
Le Cameroun a déployé 3000 soldats à sa frontière nord avec le Nigeria dans le cadre de la force multinationale pour combattre Boko Haram. Un millier d'autres soldats positionnés le long de la frontière avec la République centrafricaine ont pour mission d'empêcher les incursions des rebelles centrafricains. Depuis le début de son offensive il y a 2 ans, la force régionale a délogé Boko Haram de beaucoup de zones, mais les raids des djihadistes et des attentats suicides ont continué. D'après les responsables de santé, des centaines de blessés, dont plusieurs soldats, sont morts en partie à cause du manque de sang, les besoins étant estimés à 200 000 litres chaque année. Pour le docteur Biwole Sida du centre hospitalier de Yaoundé, donner du sang aide, mais ce n'est pas suffisant.
S'agissant des hépatites virales au Cameroun, nous avons des prévalences qui varient entre 10% et 13%, notamment pour l'hépatite B et l'hépatite C.
Parmi ceux qui veulent contribuer à combler le gap, Zanele Makina, une Sud-Africaine qui a pu mobiliser 200 donneurs de sang rien que cette semaine.
It's amazing. It's very good.
C'est remarquable, c'est très bien. Nous ne nous attendions pas à autant de mobilisation des Camerounais, mais dès que les gens ont vu notre installation pour recueillir du sang, même les petits vendeurs du marché ont répondu à nos appels au mégaphone. Ils sont venus se proposer pour donner du sang.
Dans un communiqué, l'armée camerounaise a chaleureusement remercié la communauté sud-africaine pour cette belle initiative. Le président Paul Biya encourage les citoyens à soutenir les soldats. Le gouvernement de Yaoundé dit avoir reçu de la population de grandes quantités de produits alimentaires et jusqu'ici des fonds de l'ordre de 6 millions de dollars en aide à l'armée ces 2 dernières années.
Salut les amis, Roger Moutou ici sur VOA Afrique. Vous me suivez tous les soirs à 20h temps universel dans l'émission RM Show. Au menu, de la bonne musique, des interviews avec des personnalités et des artistes. RM Show donne aussi la parole aux auditeurs de la VOA Afrique. Suivez-nous en direct sur Facebook Live VOA Afrique. Participez en appelant au 001-202-205-2633. C'est au 001-202-205-2633. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste hashtag RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Kikini bamba loko bamba Kubambo si bamba yeah Zabamba domasi Bamba mi bamba bamba Kikini bamba loko bamba Kubambo si bamba yeah Zabamba domasi Taking Bamba, Oko Bamba, O Bambo, si Bamba, yeah, Bamba, 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 Taking Bamba, Oko Bamba, O Bambo, si Bamba, yeah, Bamba, Bamba,
Voilà, du bon reggae venu du fleuve, des bords du fleuve Sénégal. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Ce sera tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Jean-Roger Billon à Washington. Excellent début de week-end à l'écoute de VOA Afrique.